Et donc ce matin, on est toujours dans la première lettre à Timothée, un livre, une lettre qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et le titre de notre parcours, si vous avez suivi les prédications précédentes, c'est « Combattre le bon combat ». Voilà. Combattre le bon combat. Combattre le vrai combat, celui de l'Évangile. Pour introduire notre prédication de ce matin, j'aimerais rappeler qu'il y a un mois, presque jour pour jour, c'était la Saint-Valentin. Alors, si j'ai récapitulé encore. Ouais, c'est bon, c'est nul. Ouais, tu vas passer si jamais. C'était la Saint-Valentin. La fête des amoureux. Alors, c'est vrai, avec le temps, peut-être un couple marié de longue date, comprendre que la santé de son couple ne dépend pas que de la Saint-Valentin et du restaurant qu'il aura fait le soir de la Saint-Valentin. Mais peut-être pour des jeunes amoureux, c'est le lieu où on va prononcer le fameux « je t'aime ». « Je t'aime ». Peut-être les mots les plus beaux qu'on peut entendre. Trois mots seulement, mais ils portent une promesse immense. Ils parlent d'attachement, ils parlent de fidélité. Il parle de don de soi. Mais si maintenant on imagine un instant que quelqu'un dise constamment « je t'aime, je t'aime, je t'aime » sans jamais donner de son temps, sans jamais écouter, sans jamais se soucier de l'autre, sans jamais poser un seul geste concret, alors on découvrira, n'en déplaise à la Saint-Valentin, qu'une vérité magnifique peut rester suspendu dans l'air comme une mélodie que personne ne joue. Tant que ce n'est pas vécu, tant que ce n'est pas incarné, tant que ce n'est pas exprimé dans des gestes concrets, ça reste une idée. Pas la réalité, juste une idée. Un peu comme cette affirmation magnifique qu'on trouve dans la Bible. On trouve cette affirmation dans le Nouveau Testament à propos de l'Église, à propos de la communauté des croyants. Dans la première lettre que Paul écrit aux Corinthiens au chapitre 12, et c'est vraiment magnifique et profond, alors je vais vous le lire maintenant. Voilà ce qui est écrit. « Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est magnifique! Cette vérité est waouh! Un texte profondément beau. Paul y décrit l'Église comme un seul corps où chaque membre a sa place. Personne n'est inutile. Les faibles sont honorés. Les différences ne. Il n'y a pas de division. Tout participe à l'unité. Ça, c'est une déclaration magnifique sur l'Église. L'Église, un rassemblement d'hommes, de femmes transformés par l'Évangile. Où en quelque sorte, chaque membre est appelé à dire « je t'aime » aux autres. Voilà le beau combat de l'Évangile. Et si c'est la première fois que vous venez à l'Église, voilà ce qu'est l'Église, ce corps qui nous est décrit. Mais si on reste juste dans les mots, ça peut rester juste une belle vision, une grande idée théologique, quelque chose qu'on admire, mais ça ne se concrétise jamais. Et bien c'est précisément ce qui va nous intéresser ce matin. La concrétisation de cette magnifique vérité qu'en Jésus-Christ, chaque membre prend soin des autres. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5 va nous inviter à réfléchir à comment cette vérité passe des mots à la réalité, de l'image à la vie quotidienne, de la théologie aux relations concrètes entre frères et sœurs au quotidien. Parce que l'évangile, ça se voit dans la manière dont on traite les autres. L'évangile, ça se voit dans la manière dont on traite les autres. Alors je vous propose maintenant qu'on lise ensemble ce 5e chapitre de la lettre à Timothée. On va la lire dans la version Summer, je vais la projeter, mais vous pouvez l'ouvrir si vous avez vos Bibles pour suivre directement le texte. On va lire 25 versets ce matin. Ne rudoie pas un homme âgé, parle pas rudement, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect, je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille. Qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte, quoique vivante. Transmets-leur ces avertissements, afin qu'elle mène une vie irréprochable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été une épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, lavé les pieds des membres du peuple saint, secouru les malheureux et pratiqué toutes sortes d'actions bonnes. Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire, car il arrive que leurs désirs se raniment et les détournent de Christ. Elles veulent alors se remarier et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et parler à tort et à travers. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Il y en a hélas déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elles subviennent à leurs besoins et que l'Église n'en ait pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'Église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles, sans parti pris ni favoritisme. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes, avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes, mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Voilà pour notre chapitre dans la lettre à Timothée, le chapitre 5. L'évangile, ça se voit dans la manière dont on traite les autres. Et d'ailleurs, les deux premiers versets de notre texte nous donnent le cadre, un cadre de bienveillance les uns envers les autres, de considération de chacun tel qu'il est et pour ce qu'il est. Versets 1 et 2, Paul demande à Timothée d'exhorter le vieillard comme un père, de ne pas être rude. Et même si à la place, des fois pour être rude dans l'Église, notamment avec les faux enseignements, comme on a pu le voir au début de la lettre à Timothée. Ici, l'accent, il est sur la considération de l'autre. Les femmes âgées comme des mères, les jeunes hommes comme des frères, les jeunes femmes comme des sœurs. On retrouve la vérité merveilleuse que j'ai lue tout à l'heure, où chacun des membres compte dans le corps, dans l'Église. Et l'Évangile, ça se voit dans la manière dont on traite les autres. Alors, pour avancer dans notre texte ce matin, on va suivre un plan très concret en deux points, une question, une exclamation. Premier point, qui fait quoi ? Une question. Deuxième point, une exclamation. Surtout eux. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre le plan au fur et à mesure où on va avancer. Et donc, premier point, qui fait quoi ? L'Évangile, ça se voit dans la manière dont on traite les autres, dans la manière dont on prend soin des autres. Et dans cette partie de la lettre que Paul a adressée à Timothée, qui avait été envoyé pour remettre de l'ordre dans la communauté d'Éphèse, on trouve trois sections distinctes. Si on intègre le tout début du chapitre 6, la relation entre maître et esclave. Trois sections qui invitent à la mise en pratique de l'idée qu'on a de prendre soin les uns des autres. Ce matin, on va en traiter que deux, les deux que j'ai lues, celles qui concernent les veuves et puis celles qui concernent les responsables. Et donc, dans la première section, qui commence au verset 3, Paul demande à Timothée de s'occuper des veuves avec respect. Et ce souci des veuves, il n'a rien d'original pour une église du 1er siècle. On retrouve déjà dans l'Ancien Testament le souci qui doit être apporté aux veuves. Par exemple, Exode 22 nous dit « Vous n'opprimerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les opprimez et qu'ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leur cri. » Parce que la situation sociale, économique, morale des veuves était catastrophique, précaire, et souvent passait inaperçue aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Écoutez le psaume 68 qui nous parle de Dieu. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. La compassion de Dieu pour les veuves, pour les orphelins. Et au-delà de l'Ancien Testament, Jésus a dénoncé ceux qui dépouillaient les veuves de leurs biens tout en faisant de très belles prières à côté. Parce que le fait de prendre soin des veuves, le fait de prendre soin des orphelins, représente la piété selon Dieu. La vraie foi, comme le dit Jacques dans sa lettre dans le Nouveau Testament. On ne peut pas se dire spirituel et en même temps pas s'occuper de ceux dont les conditions de vie sont les plus difficiles. Donc rien d'étonnant au fait que Paul, après avoir dit à Timothée et à l'église d'Éphèse de s'exercer à la piété, chapitre 4, c'est-à-dire d'avoir un comportement qui traduit leur relation à Dieu, maintenant qu'ils sont réconciliés avec lui, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et on l'a chanté ce matin. Rien d'étonnant qu'il leur dise de s'occuper des veuves, de prendre soin de ceux qui, à l'époque, ont un statut précaire, une condition sociale moindre. Pourtant, le propos de Paul ici, il n'est quand même pas simple à comprendre. Il parle de veuves réellement dans le besoin, versets 3 et 5. Après, il parle de veuves qui sont inscrites sur une liste, au verset 9. Puis après, il encourage des veuves à se remarier au verset 14, par exemple. Alors comment on doit comprendre le raisonnement de Paul ? Comment on doit comprendre ce qu'il est en train d'exhorter à Timothée ? En fait, je pense que Paul y répond à une question pratique. Il répond à cette question, qui fait quoi ? S'occuper des veuves, oui. Prendre soin les uns des autres, oui. Mais qui fait quoi ? Un peu comme dans un déménagement. Quand on déménage, très souvent, on bénéficie de l'amour, du soutien de nos proches. Il y a toujours des gens pour proposer leurs bras, pour proposer d'aider, en contrepartie de pizza ou de... Ils veulent montrer leur amitié quand même. Mais voilà, il faut organiser tout ce petit monde. Il y en a qui vont emballer les cartons, il y en a qui vont démonter les meubles, il y en a qui vont transporter les cartons jusqu'au camion, il y en a qui vont être missionnés pour conduire les camions. Il faut s'organiser, définir le rôle de chacun. C'est la même chose si on organise des travaux, c'est la même chose si on organise une fête, une soirée. Pour n'importe quel projet, on a besoin de savoir qui fait quoi. Qui a la responsabilité de quoi. Et pour exprimer le soutien des membres les uns envers les autres, le corps de Christ, l'Église, n'échappe pas à cette règle. S'occuper des veuves, oui, mais qui fait quoi? Il existe donc une liste, un registre, qui permet à l'Église d'Éphèse de savoir qui est responsable de quelle situation de veuvage. Des versets 4 à 8, Paul rappelle que lorsqu'une veuve a encore de la famille, des enfants ou des petits-enfants dans l'Église, c'est d'abord à eux de prendre soin d'elle. C'est leur responsabilité. Et Paul lui le dit sur un ton solennel. Ne pas assumer ce devoir, c'est renier la foi. Renier la foi par son comportement. L'exhortation, elle est forte. Pourquoi ? Parce que l'Évangile ne reste pas une idée abstraite. Une personne qui a vécu le pardon des péchés en plaçant sa foi dans la mort et la résurrection de Jésus, une personne qui a goûté à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ça doit se voir dans la manière dont il traite les autres. Ça doit se voir dans la manière dont il traite sa propre famille. Alors oui, il existe des situations familiales particulières, spécifiques. Et oui, bien sûr, il faut en tenir compte. Mais là, ce n'est pas le sujet de Paul ici. Par contre, une veuve qui n'a plus de famille, qui est privée de soutien, comme le dit le verset 5, elle peut recevoir l'assistance de l'Église. Et en fait, dans les deux cas, que ce soit l'assistance des enfants, des petits-enfants ou de l'Église, la communauté prend soin des membres. Mais la manière dont ce soutien s'exprime n'est pas exactement le même. On peut prendre un autre exemple, par exemple, pour comprendre. Imaginons une personne âgée dans l'Église en situation précaire, difficultés financières, problèmes de santé, besoin d'aide concrète. Si cette personne, elle a encore des enfants, il va nous paraître normal que ce soit les premiers à intervenir dans la situation. Mais à l'inverse, si une autre personne âgée se trouve dans la même situation, mais sans enfants, sans famille, là on comprendrait facilement qu'elle devienne prioritaire par rapport à l'aide reçue de l'Église. Pour Paul, aucune situation de détresse doit être ignorée, notamment pour les veuves. Comme je l'ai rappelé, à l'époque du 1er siècle, les veuves étaient souvent dans une grande précarité sociale et économique. Chaque membre du corps en difficulté doit être connu, doit être pris en compte, soutenu par les autres membres. Souvenez-vous de 1 Corinthiens 12 que j'ai lu au début pour introduire. Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Mais de dire ça, ça suppose qu'il faut quand même réfléchir à la manière dont cette assistance est organisée. Et donc, verset 9, Paul donne les conditions pour être sur la liste, sur le registre des veuves qui peuvent bénéficier d'une aide, d'une assistance financière. Ne pas pouvoir être secouru par sa propre famille, comme on vient de le dire. Avoir plus de 60 ans. Ça, c'est certainement parce qu'à l'époque, avant 60 ans, c'était possible de se remarier et donc de retrouver une condition sociale et économique meilleure. Rendre un témoignage positif de sa vie avec toute cette liste. Avoir fait hospitalité, avoir lavé les pieds des saints, avoir accueilli. Alors on peut penser que ce genre de document est assez étrange. Qu'est-ce que c'est que cette liste ? Étrange mais pertinent. Par exemple, lors de l'Assemblée Générale dimanche dernier, Nicolas a expliqué que les responsables d'église travaillent actuellement sur le règlement intérieur de l'église. Il a aussi présenté un synopsis de décision, en d'autres termes, un cadre qui permet de savoir qui fait quoi dans l'Église, qui prend telle décision, dans quelle situation. Et en fait, peut-être qu'on serait amené à créer d'autres documents. Des documents, savoir comment on accompagne une personne qui traverse une difficulté financière importante. Qui doit être informé ? Qui évalue la situation ? Comment l'Église peut intervenir de manière juste et sage ? Ou encore, quand on voit l'évolution des retraites pour l'avenir, est-ce qu'un jour il faudra réfléchir à partir de quel montant de retraite toucher une personne qui serait retraitée, qui n'aurait pas de famille, qui n'aurait pas de, de personnes pour prendre soin d'elles pourraient bénéficier d'une aide de l'Église. Et alors, on va établir des critères. Et quand on fait ça, l'objectif, ce n'est pas de la bureaucratie. L'objectif, c'est de prendre soin des personnes parce que l'Évangile se voit dans la manière dont on traite les autres. L'Évangile, ça se voit dans la manière dont on traite les autres. On ne veut pas organiser pour organiser. Et Paul ne veut pas organiser pour organiser. Dans les versets 11 à 15, Paul partage son inquiétude à propos des jeunes veuves. Et je crois que, à travers ce passage qui pourrait nous paraître un peu nébuleux, c'est un rappel important qu'on ne veut pas organiser pour organiser. C'est pas facile de savoir avec précision quelle situation exacte Paul a en tête. Plusieurs possibilités. Peut-être il craint que certaines jeunes veuves cherchent absolument à se remarier, au point d'épouser un non-croyant et du coup de s'éloigner de la foi. Peut-être qu'il pense à des femmes qui auraient pris un engagement de célibat, mais qui finalement vivraient des relations sexuelles en dehors du mariage. Ou encore à des jeunes veuves qui seraient engagées dans un service particulier dans l'Église, mais qui ne pourraient pas tenir cet engagement jusqu'au bout. Mais quoi qu'il en soit, la préoccupation de Paul, elle est claire. Il redoute que certains désirs mal orientés finissent par détourner ces jeunes femmes de leur attachement à Jésus-Christ. Et ça nous donne un principe important. Quand on réfléchit à l'organisation de la vie de l'Église, à l'organisation de soutien financier que l'Église peut apporter, notre objectif premier ne devrait pas être simplement l'efficacité ou l'ordre. Notre désir le plus profond devrait être d'aider les personnes à grandir dans la foi et à demeurer fidèlement attachées à Jésus-Christ. Parce que lorsque les membres du corps de Christ prennent soin les uns des autres, il se passe quelque chose d'incroyable. Chaque membre s'attache davantage au corps, à Jésus-Christ. Et au fond, c'est ça le bon combat de l'Évangile. L'Évangile, ça se voit dans la manière dont on traite les autres, dont on prend soin des autres. Surtout eux. Alors c'est qui eux ? Verset 17. Regardez verset 17. Les responsables, ceux qui dirigent. Dans d'autres traductions, vous aurez peut-être les anciens. Prendre soin des responsables. Mais aussi prendre soin de la fonction de responsable. Ce qui peut vouloir dire des fois reprendre, corriger, mettre en lumière des problèmes. Prendre soin des responsables. Et on va voir à travers les deux recommandations que fait Paul, c'est extrêmement important parce que la santé spirituelle de la communauté dépend en partie de la santé spirituelle des responsables aussi. C'est un petit peu l'image d'un thermostat. Je ne sais pas si chez vous, vous avez un thermostat dans votre maison. Mais c'est un petit... Celui-là est moderne. C'est un petit appareil qui régule la température d'un lieu. Donc dans une maison, le thermostat ne chauffe pas directement la maison, c'est pas lui qui chauffe, mais il règle la température. S'il est bien réglé, toute la maison peut se sentir confortable. Mais s'il est défaillant, dans toute la maison, on ressent les effets du trop chaud, du trop froid. Eh bien les dirigeants de l'Église, les responsables de l'Église, ne vivent pas la foi pour chacun des membres. C'est à chacun qu'appartient de vivre sa foi, sa relation à Dieu. Mais il donne la direction spirituelle de la communauté. Voilà pourquoi Paul dit au verset 17 et 18, « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment, surtout, ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore l'ouvrier mérite son salaire. » Paul parle ici d'un double honoraire, surtout pour ceux qui consacrent à la prédication et l'enseignement. Alors dans le contexte de l'Église d'Éphèse, je pense que ce serait faux d'imaginer un double salaire. Ce n'est pas vraiment ça l'idée. L'idée, c'est plutôt que ceux qui prennent soin de l'Église en enseignant la parole de Dieu doivent être soutenus suffisamment pour pouvoir se consacrer pleinement à cette tâche. Autrement dit, l'Église doit veiller à ce qu'ils aient le temps, la sécurité financière nécessaire pour étudier l'Écriture, pour préparer l'enseignement et pour nourrir la communauté avec fidélité et persévérance. Et Paul, il insiste fortement sur ce point en s'appuyant sur l'Écriture elle-même. Il va citer l'Ancien Testament, « Tu ne muselleras pas le bœuf, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui fout le grain. » Et il va citer les paroles de Jésus. « L'ouvrier mérite son salaire. » Pour montrer que ce principe s'aligne avec la volonté de Dieu, avec les principes de l'Évangile. On voit alors se dessiner une sorte de dynamique, on pourrait dire, dans la vie des membres de l'Église. Une communauté qui est transformée par l'Évangile prend soin, matériellement, des responsables qui, eux, prennent soin, spirituellement, des autres membres par l'enseignement de la parole. C'est un peu comme un cycle. Un peu comme un cycle, et on peut penser au cycle de l'eau qu'on apprend à l'école. Sauf que moi, j'avais appris ça en primaire. La pluie tombe, elle nourrit la terre et permet aux plantes de pousser. Ces plantes, ensuite, participent à l'évaporation qui formera de nouveaux nuages, puis la pluie revient. Et l'eau circule continuellement. Et c'est ce mouvement-là qui permet à tout l'écosystème de fonctionner. Dans le corps de Christ, il y a une dynamique un peu comparable. Lorsque la communauté prend soin des responsables, elle leur permet de se consacrer fidèlement à l'enseignement de la parole, et cet enseignement nourrit tous les membres du corps de Christ, fortifie les croyants, les encourage à vivre l'Évangile. Voilà à quoi ressemble une communauté de membres qui prend soin les uns des autres. L'Évangile, ce n'est pas une idée abstraite, ça devient visible dans la manière dont les membres prennent soin les uns des autres. Alors prendre soin de la communauté de l'Église dans son ensemble, c'est honorer ses responsables, mais c'est aussi mettre en lumière quand ils se comportent mal. Et oui, si les responsables font un peu office de thermostat, comme on a dit dans la communauté, on comprend bien pourquoi Paul, il alerte Timothée. Verset 19, « N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église s'il n'est pas appuyé par deux ou trois témoins. » Un principe qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qu'on retrouvera aussi dans la bouche de Jésus. Et verset 20, « Ceux qui ont péché, les responsables qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. » Paul, il est tellement conscient de l'importance des responsables au sein du corps de Christ, il est tellement conscient des dégâts que le péché des responsables peut avoir sur une communauté qui fait référence au tribunal céleste, verset 21. « Je t'en conjure, solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. » Paul a envoyé Timothée à Éphèse pour mettre de l'ordre dans une communauté traversée par des faux enseignements, notamment à cause des faux enseignements qui étaient certainement transmis par des personnes en responsabilité dans l'église d'Éphèse. Alors Paul demande à Timothée de faire preuve de discernement. Entre les versets 22 à 25, Paul invite Timothée à faire preuve de discernement par rapport aux membres de la communauté qui seront en responsabilité. Un petit peu comme si Paul disait à Timothée, regarde patiemment avant d'imposer les mains. Poser les mains qui fait référence à une manière de reconnaître publiquement une responsabilité dans l'Église. Prends ton temps pour observer les bons comportements et les mauvais. Parce que l'Évangile, ça doit se voir dans la manière dont on traite les autres. Surtout pour eux, surtout pour les responsables. Alors voilà comment Paul a été très concret dans les recommandations qu'il a fait à Timothée. Pour que les membres de l'église d'Éphèse puissent vivre l'unité et prendre soin les uns des autres. Et j'aimerais conclure en disant que dans l'église, on ne prend pas soin les uns des autres parce qu'on veut devenir ce magnifique corps où chaque membre prend soin les uns des autres. Ce texte qu'on a lu magnifique dans 1 Corinthiens 12. On prend soin les uns des autres parce que nous sommes ce corps. C'est une réalité déjà établie. Ça ne dépend pas de nous. C'est l'Évangile. C'est ce que Christ a fait à la croix. Que des hommes et des femmes reçoivent le pardon des péchés, qu'ils soient réconciliés avec Dieu, qu'il en ait fait un peuple, pour qu'ils appartiennent à un seul corps. Et du coup, on ne se comporte pas dans l'Église comme des membres interdépendants parce que on veut être ses membres, mais parce qu'on est déjà ses membres. Un jour, un petit garçon qui s'appelle Jeffrey, il jouait dans la cour de récréation. Et il y a un autre enfant qui tombe et qui se fait mal. Alors il commence à pleurer. Et Jeffrey, il s'approche et il l'aide à se relever. Il l'accompagne jusqu'à la maîtresse. Et la maîtresse lui dit « C'est bien, Jeffrey, ce que tu as fait. Pourquoi tu l'as aidé ?» Et Jeffrey, il répond simplement « Non, maman, dis toujours. Jeffrey, t'es le grand frère. Tu dois prendre soin des autres. » Et la maîtresse, elle sourit un petit peu. Elle lui dit « Mais Jeffrey, c'est pas ton frère. » Et il dit « J'ai pas dit ça, madame. Mais moi, je suis un frère. » En fait, Jeffrey, il n'a pas aidé l'autre enfant pour devenir un frère qui prend soin des autres. Il l'a aidé parce qu'il savait qu'il était déjà un frère qui doit prendre soin des autres. Et bien la vie chrétienne, c'est exactement comme ça. On ne prend pas soin des autres pour obtenir une place dans la famille de Dieu, pour être un des membres du corps. On prend soin des autres parce qu'on appartient déjà à cette famille, parce qu'on est déjà un des membres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour le corps que nous formons en Christ. Merci pour l'Église. Merci pour les relations d'amour qu'on peut vivre ensemble. Et Seigneur, on te prie de vivre cette réalité dans le concret, de ce que Christ s'est acquis, qu'on puisse le vivre dans nos actes. Aide-nous, Seigneur, en tant que communauté, à discerner qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quel service on peut mettre en place pour prendre soin les uns des autres. Aide-nous à nous regarder les uns les autres, à honorer les membres qui pourraient paraître les plus insignifiants, comme c'est dit en 1 Corinthiens 12, à nous réjouir avec ceux qui sont honorés. Seigneur, on te prie de nous aider par ton esprit à vivre cette réalité merveilleuse que en Christ, par son sacrifice à la croix, nous avons été adoptés, nous sommes tous membres d'un corps, et nous voulons vivre cette réalité par nos actes. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.